Avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 place de la Madeleine. Vous écoutez Sud Radio à Avignon, par exemple, sur 95.2. On peut se retrouver sur notre page Facebook Invino aujourd'hui. Un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec l'Italie et des bulles divines. On en parlera tout à l'heure. Les cépages résistants aux maladies, le vignoble de Janière avec son cépage roi, le Chenin et le Vino Quiz pour gagner un très très beau cadeau en jouant sur InvinoRadio.tv. À mes côtés, Hélène Piau. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Vous êtes splendide.
Je vous remercie beaucoup.
Tout simplement.
Vous aussi.
Ils sont très beaux aussi. Christophe Siraglini, David Cobol et Philippe Aubrac. Bonjour à tous les trois. Vous êtes beaux tous les quatre. Voilà.
Bonjour.
Commencer cette émission, Hélène Piau, vous qui êtes chef de rubrique au magazine Régal, on accueille un invité formidable, Bruno Quenioux. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Alors vous êtes fils de vigneron, racontez-nous, là, elle est où votre région de cœur avec des cèpes de vigne?
Cheverny.
Cheverny?
Oui, oui.
Vous n'avez pas repris la suite là, c'est pas bien ça?
Non, mais j'avais un grand frère qui l'a prise à ma place, et puis à l'époque, quand j'étais jeune, je ne pensais pas du tout aller vers le vin. J'avais une passion de la vitesse, en fait.
Vous étiez mécanicien?
Mécanicien, mais pour aller vers la vitesse, pilote.
Moto, 4 roues?
4 roues.
À 4 roues, oui. Hélène Piau, vous aimez les pilotes?
Alors, j'aime les pilotes, surtout quand ils deviennent aussi passionnés de vin à l'arrivée que Bruno Quenioux. C'est difficile de savoir par quelle casquette vous présenter. Hein. Vous êtes à la fois le fondateur de la cave Filovino, place Estienne d'Orve, à Paris, dans le 9e. Le sélectionneur des vins et le fondateur de Bibovino, qui est cette magnifique enseigne de vente de vin en bag-in-box qui met des vins insensés en bag-in-box. Vous n'hésitez pas, on y va, Condrieu, la Côte-Rôtie en bag-in-box, ça ne vous fait pas peur. Et puis, vous êtes le trophée des talents du vin Go Emilio dans la catégorie caviste en 2017, chevalier des arts et lettres. Et aujourd'hui, c'est pour votre dernier ouvrage qu'on vous fait venir, La vie mystérieuse du vin, aux éditions Cherche Midi, qui est sorti en septembre.
On le montre à l'écran. Hein.
On le montre
c'est
à
ça,
l'écran.
On le montre au micro. Voilà. 192 pages, 18 euros, comme ça c'est fait. Donc, La vie mystérieuse du vin. Alors, effectivement, il y a un côté mystérieux dans votre livre. Et puis, il y a un côté, en même temps, hyper pratique. On a le côté ésotérique, on a le côté super pratique. Quand on goûte un vin, vous dites, la première chose, c'est de commencer par j'aime ou j'aime pas.
Oui, je crois que c'est vraiment l'essentiel du vin, c'est la base. Je pense qu'il ne faut pas se torturer l'esprit, hein, il faut rester soi-même, toujours. Et, parce qu'on dit toujours que vaut mieux être soi-même que l'autre, parce que l'autre s'est déjà pris. Et donc, voilà. Et donc je pense qu'il y a un mimétisme énorme dans le milieu du vin, des courtiers, etc., où on a tout doucement fait un langage. Et un langage, et comme tout langage, tout doucement, il se resserre à une petite population. Et on perd le client tout doucement. Et le client, il faut l'apprendre justement à trouver son langage, à trouver sa propre vérité.
Alors, c'est sa très propre bien. Vérité, elle n'est pas toujours facile à trouver parce que, bon, il y a le côté, je vous dis, très pratique de j'aime, j'aime pas. Mais vous dites aussi, on boit des vibrations du silence et du temps.
Quand oh là là, les
là,
champignons,
ça
là,
commence à se complexifier un peu.
Je pense qu'on a oublié, alors d'abord c'est pas pour tous les vins, hein, je parle de certains vins.
Les vins que vous aimez.
Voilà, les vins que j'aime. J'étais sourcier magnétiseur quand j'étais gosse. Je trouvais les sources d'eau et tout ce monde-là me parle, le monde de l'eau. Et évidemment que quand je suis rentré dans le vin, je me suis retrouvé décalé parce que c'était une époque où les vins très chargés, très denses étaient les vins de séduction, c'était des vins de dégustation qui parlaient beaucoup aux dégustateurs. Et moi, je me suis retrouvé énormément décalé parce que je sentais qu'une eau qui ne vibrait pas, je sentais quelque chose qui ne fonctionnait pas et donc je n'allais pas avaler, évidemment. Je suis resté cantonné à mon petit, à ma non-formation, hein, cet instinct peut-être un peu animal. J'ai continué comme ça en me disant bon ben tant pis, je ne saurais pas déguster et je vais vivre le vin à ma façon. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte qu'un certain nombre de d'hommes et de femmes avaient une façon de goûter le vin avec une capacité à l'émerveillement que je trouvais rarement chez les dégustateurs, et par une mimique, par un non-langage. Enfin, ça peut être un langage corporel, ça peut être n'importe quoi. Mais ça m'éblouissait de voir ces gens boire le vin et rester dans une enstase absolument invraisemblable.
Alors, oui. Enstase, il faut une petite enstase, précision quand oui. on n'a pas lu votre oui. livre. Hein. Moi, j'avoue que j'ai découvert le mot dans votre livre. Hein.
C'est un état intérieur, c'est pas un état extérieur.
Et bon, vous, David Cobbold, qui est un peu le Harry Potter là, de la dégustation, vous êtes en vibration avec le
vin ? J'oscille en permanence entre l'enstase et l'extase.
Très bien. Et donc, ça, c'est un bouquin pour un télé ou c'est un bouquin pour tout le monde ? Dites tout, Bruno.
Alors, c'est pas trop à moi de le dire. Hein. En fait, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'il est beaucoup plus facile à lire que ce qu'on imaginait. Notamment, il y a des choses sur la partie physique. Hein. Les physiciens avec qui je travaille, eh bien, ce que j'ai fait, c'est de réduire au maximum le langage, le réduire à un langage plus simple, avec des métaphores, de la vie courante, pour essayer que tout le monde puisse lire ça. Parce que c'est vrai que si c'est un livre qui s'adresse qu'aux physiciens dans le vin, alors
oui,
là,
c'est extrêmement
déjà,
ciblé comme
c'est
produit,
les vins, quoi, c'est après physiciens, donc ça va resserrer un peu. Donc le but, c'était d'être simple.
Pour terminer, Hélène.
Si je peux effectivement compléter. Alors oui, il y a un côté intello quand même, on ne va pas se mentir. Quand vous dites que vous êtes... quand vous parlez de la luisance des vins, quand vous faites votre plaidoyer pour la légèreté, le contraire de l'épaisseur,
on peut
réfléchir quand même.
Ça peut comprendre, mais bon, parfois on est un peu perché, hein, on va pas se mentir. Moi, ce que j'ai adoré, c'est votre hommage à tous les vins que vous aimez. Alors, vous citez des grands vignerons, Henri Jaillet, Didier Daguenot et son fils, les frères Foucault, la Romanée Conti. Alors, juste pour terminer, est-ce que ça existe, les vins qui vibrent et qui sont pas trop chers? Allez, trois.
Un seul.
A cappella. Bon, allez, un.
Non, bien sûr. Alors pourquoi j'ai cité ces gens-là tout d'abord ? C'est parce que quand même, ce sont des gens qui ont été des gardiens du temple et qui sont des exemples pour nous tous, hein, parce qu'ils ont c'est des vins de ce que j'appelle de haute tradition. Mais aujourd'hui, effectivement, il existe des vins quand on voit des domaines dans la Loire en ce moment qui sont en train de faire des vins sublimes, ou Vincent Gaudry, par exemple, on peut le citer.
Allez,
on peut
appellation.
Citer aussi
qu'on fait des grands
voyages. Sancerre. On peut aussi citer.
Bruno, vous nous rappelez le titre de votre livre ? Vous nous rappelez le titre de bouquin ?
La vie mystérieuse du vin.
Bon, édité
chez
Cher Midi, on salue Philippe Héraclès, le patron. Merci beaucoup,
Bruno.
Dino Sud Radio. Retrouve maintenant Christophe Serglini, professeur et puis avocat. Avocat, d'ailleurs, vous avez changé de cabinet, là, vous êtes où maintenant ?
Oui, je suis allé dans un cabinet anglais.
Anglais ?
Mais qui a décidé de rester en France, lui, et de rester en Europe et s'implanter.
C'est curieux.
En tout cas, on vous reçoit régulièrement, Christophe, pour le plus grand plaisir, pour nous parler de vin, souvent italien. Et aujourd'hui, vous parlez des divines bulles italiennes.
Oui, parce que en ces périodes de fêtes récentes, Noël, les réveillons, l'épiphanie, les bulles ont dû fortement pétiller dans les verres français. Alors essentiellement des bulles de champagne, hein, on est en France. Mais pour changer, je pensais qu'on pouvait découvrir d'autres bulles et vous emmener en Italie. Alors un esprit non averti pourrait me dire, ah oui, enfin mes parents m'auraient dit, ah... Tu vas leur parler d'Asti ? Ben non. Les gens actuellement les jeunes pourraient me dire, ah ben il va nous parler Prosecco. Eh bien non plus. Non, je voudrais parler en fait de ce que je considère comme le roi des effervescents italiens, qui est à mon avis bien au-dessus des deux premiers évoqués, qui est le Franciacorta. Alors, Franciacorta, c'est d'abord une région du nord de l'Italie, une région de Lombardie, qui est située entre Brescia, ville de Lombardie, et l'extrémité sud du lac d'Iseo. Et c'est une région composée de collines avec des vignes dans ces collines. Alors, le nom dériverait, parce qu'il y a une petite polémique là-dessus, de Cortes Franciae, qui veut dire franc de taxe, qui était le nom donné au Moyen-Âge aux communautés de moines bénédictins qui étaient venus s'installer dans la région.
Donc,
qui venaient de France, et qui étaient exempts de taxes.
Donc, il y avait une zone franche.
Alors, c'est une région qui est connue pour la beauté de ses paysages, mais aussi pour la production donc, du Franciacorta. Alors, c'est une appellation... qui est encore jeune, puisqu'elle a été enregistrée qu'en 1967 en Italie,
d'accord,
même si son histoire est probablement bien antérieure, qui a obtenu sa DOC, c'est-à-dire la dénomination d'origine contrôlée italienne en 83, et sa DOCG, on rajoute « et garantie », en 1995. Alors la production reste relativement faible hein, par rapport à la production globale de vins pétillants, de bulles dans le monde. grosso modo, ça tourne aux alentours de 1%. Hein, donc 1%. C'est pas grand-chose. Et c'est bien moins que le Prosecco, par exemple, ou encore que notre champagne. Mais alors, au niveau de la qualité, je dirais que ça se situe tout en haut.
Et les cépages, Christophe ?
Alors, j'y viendrai après. C'est Chardonnay et Pinot.
D'accord,
noir ou blanc,
très, oui.
selon différents types. Et c'est vraiment pour moi au niveau du champagne.
Oui.
Et notamment parce que ça suit la méthode d'élaboration du champagne. Ça a un cahier des charges très strict. C'est l'un des plus stricts cahiers des charges en vin pétillant qui existe. Alors, vendange à la main, exigé. Les vins subissent une seconde fermentation et une prise de bulle en bouteille. Le minimum, il y a différents types de Franciacorta, mais le Franciacorta, on va dire de base, il faut quand même 18 mois justement d'élevage en bouteille et 25 mois après vendange. Il y a au minimum 25 mois après vendange pour la sortie des bouteilles. Donc
la sélection est drastique.
Il y a un coût de production qui est relativement élevé.
Ça va plus loin que le champagne.
Ils sont très très stricts. Très très stricts. Alors donc comme je disais, Chardonnay et Pinot avec différentes typologies. Donc en ordre croissant, vous avez le Franciacorta, ce qu'on appelle le Franciacorta Satin, qui est en fait un peu notre blanc de blanc, et qui est généralement un mélange de Chardonnay et de Pinot Blanc, avec un maximum de 50% de Pinot Blanc, parce qu'il y a quand même une grosse dominante de Chardonnay. Et puis vous avez le Franciacorta Rosé, donc avec du Pinot Noir. Et puis Franciacorta Millésimé, et alors ce qu'on considère comme le top du top, le Riserva. D'accord. Et là, le Riserva, entre les vendanges et la mise sur le marché, il faut au moins 67 mois. Donc élevage est très long.
C'est beaucoup ça.
Ça le champagne ne suit pas.
Hein. Et ça vaut combien ça ?
Et
ça
vaut la bouteille ?
Sur le plan du le champagne c'est 36 mois.
Sur le plan gustatif, alors c'est très très fin. Hein. On a vraiment les arômes caractéristiques de la fermentation en bouteille. C'est très aromatique. Je dirais que alors les bonnes maisons, on va citer quelques maisons et les prix. Alors moi j'aime bien Bella Vista et Cal del Bosco, mais un peu moins connu, j'aime bien Courbastro. Et on trouve en réalité les Franciacorta, pas réserve ou autre, on trouve à 20 euros, assez facilement. Et donc j'ai envie de dire, eh bien, oubliez quand vous allez dans un restaurant italien un mauvais prosecco, et si le restaurant se respecte, demandez-lui un Franciacorta, sinon changez de restaurant.
On peut en trouver en France, Christophe.
On peut en trouver en France. Il y a des sites notamment de vin type, je ne sais pas si je peux donner des noms.
Oui, un site en tout cas.
À Italvinus, on trouve assez facilement des vins de Franciacorta.
Merci beaucoup. Excellent éclairage. Hein. On va suivre vos conseils où on change de restaurant. Effectivement, on se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Paris Place de la Madeleine avec le Ville Quiz.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave, Nicolas Paris, Place de la Madeleine, pour cette émission publique et délocalisée avec Hélène Piau et puis le Vino Quiz, Hélène, de ce dimanche 12 janvier.
Chaque semaine, nous vous posons effectivement une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau, le livre In Clima Veritas de Youri Lebeau. Voici la question de ce week-end. Comment se nomme le domaine d'Anne-Laure Boras ? Réponse A, l'Ancien Monde. Réponse B, le Nouvel Univers. Ou réponse C, le Nouveau Monde. Pour répondre et gagner le nouveau livre, je vous aide un peu, In Clima Veritas de Youri Lebeau, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup Hélène. Invino Sud Radio retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, pour nous parler de cépages résistants aux maladies. Il y a beaucoup de maladies autour de la vigne, David, ou pas ?
Ben oui. Ah oui, oui, il y en a un paquet. Et on pourrait, en résumant et en parlant d'une manière très générale, que le problématique actuel de la viticulture mondialement et donc française, c'est de continuer à faire des vins de qualité tout en réduisant de manière très drastique le recours à des produits phytopharmaceutiques.
Il y en a beaucoup actuellement dans le vin, David ?
Eh ben, il faut savoir que 20% de la consommation des produits phytosanitaires en France sont dédiés à la vigne qui, lui, n'occupe que 3% de la surface agricole.
Donc, il y a du boulot. Voilà.
Donc, il y a du boulot. Alors, le gouvernement s'y est penché. Il y a un produit éco-phyto, un programme éco-phyto. Beaucoup de gens passent au bio, au biodynamie, mais ça ne résout pas toujours tout parce qu'il y a aussi le problème du cuivre. Et là, les doses de cuivre vont être réduites. Donc, il y a un vrai problème.
Quel est le problème du cuivre, David, quand on met le cuivre dans la vigne ?
Non, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, parce que le problème du cuivre, c'est qu'il ne se biodégrade pas. Mais c'est un autre débat. Alors, après, quel est le problème fondamental ? C'est qu'il y a eu des maladies importées, comme toutes les bonnes choses des États-Unis au 19e siècle, qui s'appellent le mildiou, l'oïdium, et plus tard, une bestiole qui s'appelle le phylloxera vastatrix. Alors, le phylloxera vastatrix a été bloqué Heureusement ou malheureusement, en tout cas heureusement, parce que sinon il n'y aura pas de vigne, pas un greffage sur des porte-greffes d'origine nord-américaine. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, la vigne indo-européenne est issue d'une seule espèce, le Vitis vinifera, et d'autres espèces asiatiques et nord-américaines existent qui, eux, sont indemnes à certaines maladies, qui sont résistants à cette maladie. Ouais. Donc, l'enjeu pour la viticulture, c'est de développer des vignes qui, non seulement la racine, maintenant, bloque le phylloxera, mais la partie fructifère, qui porte les feuilles, les grappes, et du coup, qui produisent du vin,
oui,
qui résistent aux maladies. On a développé en France, avec une coopération entre l'INRA et l'Institut technique de la vigne, l'ITV. Il y a aussi un institut italien que j'ai visité qui a aussi développé des vignes résistantes. En faisant des hybridations entre des vignes indo-européennes et des vignes nord-américaines qui ont des gènes de résistance aux maladies. Je connais un vigneron à Bordeaux, il s'appelle Ducourt, il a quand même 400 hectares. Il a planté ces vignes-là, il ne traite plus qu'une fois l'an.
Ce qui est beaucoup, beaucoup mieux. D'habitude, c'est combien, David ?
10 fois.
10 fois. De 1 à 10, c'est quand même énorme.
Alors, donc ça, c'est quand même énorme. Alors, l'INRA a lâché, et il y a un programme national français fait par l'INRA et l'ITV qui s'appelle Resdur. Donc, 4 cépages ont été acceptés dans la liste des indications géographiques protégées, les anciens vins du pays. Ce n'est pas encore le cas dans les AOC. Ces 4 cépages ont été plantés. Ils s'appellent Artaban, qui est un variété rouge qui a un peu le profil d'un gamay, c'est-à-dire que c'est très fruité, léger en tanin et assez acide, vif, produit assez peu d'alcool, ce qui est intéressant dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le Vidoc, une variété rouge beaucoup plus coloré, tannique et aux arômes de fruits noirs. Ça fonctionne bien si on augmente le rendement pour les rosés, un peu comme la Syrah d'ailleurs. Le Floréal, alors deux variétés blanches. Le Floréal, vigne blanche très aromatique, un peu dans le style Sauvignon Blanc, donc immédiat, éclatant, etc. Et le Voltis, qui est une autre variété blanche, un peu plus lourde, comme un Chardonnay dans un pays chaud ou la Marsanne. Voilà. Alors ces cépages sont autorisés dans certaines appellations vins de pays aujourd'hui. La demande au dernier CETIVI, qui est le salon des techniciens de Vitivini, était énorme. Et on va planter à peu près 200 hectares cette année, 2020,
beaucoup, hein,
de ces cépages. Et il n'y a pas assez de production, parce que le problème, c'est que la production doit suivre. Parce qu'il faut produire des porte-greffes, certes, il faut produire les greffons aussi, et ensuite les greffer. Alors ça pose un énorme problème, mais c'est en train d'exploser. J'ai parlé avec plusieurs personnes de l'Institut technique de la vigne dans différentes régions. Ils m'ont dit, ça va suivre. Il y a une deuxième vague qui va se développer, le Resdur 2, ça c'était le Resdur 1, 4 authentifiés. Mais ça prend du temps d'aller faire certifier, indemne ou maladie, doublement résistant, parce qu'il faut introduire 2 gènes. Quand on fait une hybridation, c'est très complexe techniquement. Il faut prendre une pince à épiler, sachant que la vigne est hermaphrodite, il faut prendre les pistils, il faut les prendre, et il faut fertiliser un à un les stamens de l'autre côté. Et ça prend du temps, et ensuite il faut les planter, les tester, ça fait un grain, il faut que le grain germe, ensuite on le teste, on le vinifie en micro-vinification. Donc l'ensemble de la procédure, c'est au moins une dizaine d'années.
Et alors, est-ce que dans 50, 60 ans, si on se projette un peu, on ne craint pas du coup une uniformisation des cépages ?
Non.
Si on n'utilise que ce type de cépage,
non,
ça fait pas
parce que
peur.
Ce qui est intéressant, j'en parlais avec Frédéric Brochet tout à l'heure, qui lui a planté ces cépages, docteur en oenologie, qui a planté en centre-Loire ces vignes. Il dit, pour lui, dans une vingtaine d'années, il y aura une majorité de vignobles plantés comme ça.
Ouais,
parce que qu'est-ce qu'on fait pour respecter la typologie ? C'est un terme que je n'aime pas beaucoup, mais on va croiser les génotypes résistants avec les vignes emblématiques des régions, avec le Riesling en Alsace, avec les Cabernet ou le Merlot à Bordeaux, etc. Et si ça permet de traiter pas du tout ou beaucoup moins, où est le problème ?
Oui,
évidemment, il faut tester le goût des vins. Et ça, c'est impératif également. Mais c'est un énorme chantier et c'est en train de se développer.
Merci David Cabol, une vidéo sur le radeau. On retrouve à présent Philippe Forbrac, propriétaire du restaurant Le Bistrot du Sommelier, boulevard Haussmann à Paris, pour nous emmener à la découverte du vignoble de Janières. Philippe, Janières, mais dans quelle région sommes-nous ?
Nous sommes dans la Loire et plus précisément dans le département de la Sarthe.
La Sarthe, le pays de M. Fillon, des rillettes aussi.
Notamment des rillettes, de la volaille.
Le 24 heures du Mans.
Les 24 heures du Mans. Je suis sûr que Bruno Quenioux adore cette course.
Ah, j'ai rêvé toute ma jeunesse de la faire.
Vous évidemment. Nous rappelez le titre de votre bouquin, d'ailleurs, en parlant de ça. Comment il s'appelle votre livre, là ?
La vie mystérieuse du vin.
Ah, très bien. On cherche midi, quoi. Et vous aimez le chenin, vous ? Parce qu'il y a beaucoup de chenin dans la Loire, Christophe Zerglini.
J'adore le chenin.
Je crois qu'autour de la table, on est pas mal
adorés. On est chenin addict.
On est très
chenin. C'est un cépage qui, effectivement, n'est pas très connu du grand public.
public, une secte.
Finalement. Ouais. Et même moi, qui suis de la Loire, on n'aimait pas le Chenin quand j'étais gosse, parce qu'on n'est pas du bon côté.
Ah bah
on est
ça.
Du côté Sauvignon. Et, oui. Et en fait, le Chenin avait un goût de pomme blette chez nous. Mmh. Et donc, mon père nous disait, c'est pas un bon cépage. Et puis en fait, quand on goûtait des Vouvray, des grands Chenins secs, alors on disait, ah oui, il me dit, ah, mais là c'est vraiment bon.
Quand ah là c'est quand même bon. Quoi,
quand, c'est bon quand c'est bon, c'est bon. Alors c'est une petite appellation Janière qui fait 80 hectares aujourd'hui. Il y a eu son heure de gloire à l'époque du Moyen-Âge, les moines cisterciens notamment.
Ah les moines.
Adoraient ce vignoble, l'ont
encore
développé.
Henri IV.
Henri IV, exactement.
Il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'Henri IV.
Depuis Louis XIV, à l'époque de Louis XIV, on a même cartographié le secteur pour pouvoir repérer les bons vignobles et les grands vins. Il n'était pas fou Henri IV. Hein. Et Louis XIV non plus. Il s'était expédié à la cour de France et c'était des vins qui étaient servis pour les grandes occasions. Alors c'est une appellation qui avait perdu un peu, même pas mal, de son volume et de son image. Et depuis les années 70, petit à petit, un certain nombre de vignerons s'y sont remis. Joël Gigou fait partie des pionniers de ce renouveau de l'appellation.
C'est quelle couleur, Philippe,
mais
en général ?
Alors le Chenin donne uniquement des vins blancs. Donc l'appellation ne produit que des vins blancs. Alors certes des vins blancs secs, mais un peu comme toujours dans le Chenin, qui a un côté caméléon, on peut trouver des vins secs, des vins demi-secs, des vins moelleux, des vins liquoreux.
Et ça, donc, c'est clairement marqué sur l'étiquette, bien sûr.
Oui, on essaye de faire en sorte qu'on arrive à lire des fois, parfois, entre les lignes. Hein, parce que parfois,
c'est pas toujours évident.
C'est un peu comme en Alsace.
Les
on ouvre la bouteille, on se dit que, est-ce que c'est très sec
ou on prie un peu en disant les huîtres.
Ou est-ce qu'on se dit que finalement, avec un joli gâteau, voilà, une brioche, par exemple,
faites dans confiance la brioche, à vos cavistes.
Par exemple,
achetez vos vins chez les cavistes et eux, ils vous diront.
C'est vrai, chez Nicolas, il connaît bien la réponse.
Du sucrosité. Bon, néanmoins, ce cépage est un cépage extrêmement intéressant qui donne effectivement des vins de variantes gustatives assez larges, mais qui garde un profil souvent marqué par une minéralité, une acidité, une droiture de fin de bouche qui est vraiment une très belle référence. Et les arômes du Chenin sont souvent marqués par des arômes fruités. On trouve le coing, par exemple, fréquemment, mais également les arômes alors de pommes, effectivement. Oui. Heureusement, pas blette, oui, nécessairement, mais de poire également.
L'ananas poivré aussi.
L'ananas, exactement, de poivre blanc, ça, c'est assez remarquable sur les Chenins. Et puis, en finale de bouche, souvent, une certaine salinité qui est aussi le marqueur, à la fois du Chenin, sur des sols plutôt à dominante calcaire, avec une très belle exposition. Les miels, les épices, etc. Et puis, ça vieillit très bien. Le Chenin peut être un peu austère sur sa jeunesse, avoir un peu de réserve, mais cette réserve lui permet justement de s'exprimer sur un très joli potentiel dans le temps. Et il ne faut pas hésiter à garder une dizaine d'années.
Ah, quand même,
mais oui, il y a vraiment... L'acidité est un élément de conservation. Bien sûr.
D'accord. Donc, Hélène Piou peut le garder pour ses 18 ans, par exemple. Hélène Piou, dans 18 ans, dans 10 ans.
Très bien.
Très bien.
Parmi les domaines qui valent la peine, je pense au domaine Bélivière, qui aujourd'hui est la référence un peu de l'appellation, qui travaille, non seulement ils ont une approche bio et responsable, si on veut, de leur terroir, mais surtout, ils font des cuvées parcellaires qui sont assez remarquables, avec beaucoup de précision, des tris également sur ces parcelles, et notamment dans les grandes années, qui leur permet d'affiner l'expression remarquable de leurs différents types de sols.
Combien ça coûte une bonne
bouteille,
Philippe Janière ?
Alors, globalement, dans l'appellation, les vins sont autour entre 15 et 20 euros.
D'accord.
Et puis après, les cuvées parcellaires, notamment de Bélivière, sont quand même plutôt autour 30. De 20, 30, voire 40 euros.
Ah oui.
Mais à partir d'une trentaine d'euros, on peut avoir des vins intéressants.
D'autres vignerons intéressants, peut-être ?
Stéphane Corny, notamment, qui lui est un Sancerrois, donc il a quitté le Sauvignon pour aller se révéler en terre de Chenin.
Il est du bon côté, lui.
Exactement. Joël Gigou, dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis le domaine Le Lait. Également, qui fait partie des vins très intéressants. Ce sont les secs sont des merveilleux vins d'apéritif, franchement. Demi-sec, je trouve qu'avec les rillettes, c'est juste magnifique. Et puis les moelleux, je vous disais tout à l'heure, une belle brioche. Gourmande avec quelques coins à l'intérieur confit, ça marche
bien. Ça y est, on a faim. Merci beaucoup. Et grâce à vous, Philippe Forbach. Merci ici. Hélène Piou, Christophe Serglini, Bruno Quignou, David Cobold. Merci à Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et n'oubliez jamais respecter la plus grande des modérations.
Invino, avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.